Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jackie Hadouche. Il a tué trois fois à la fin des années 90 et au début des années 2000 une vieille dame, un professeur et un jeune caméraman. Pourquoi ? Eh bien, on ne le saura jamais. Il n'a jamais voulu s'expliquer. En était-il capable ? Ça n'est pas sûr. Et d'ailleurs, il n'a jamais vraiment assumé ce qu'il a fait. Sur les trois meurtres, il n'en a reconnu qu'un et encore du bout des lèvres. Mais sur le pourquoi, il est resté muet. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre de lui puisqu'il est mort. Très peu de temps après sa dernière condamnation. Mais vous verrez que dans son histoire, il y a la trace d'une explication. Jackie Hadouche a vécu à l'âge de 16 ans un traumatisme majeur. Une expérience intime dont, en principe, on ne se remet pas. Ça ne l'excuse pas, mais c'est la seule explication qu'il nous est laissée. Pour le débrief, tout à l'heure, je serai avec vous, Maître Beyouni, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez son avocat, et je pense que j'aurai besoin de votre secours. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la raconte sur Europe 1.
C'est une histoire très décousue. Une histoire sans queue ni tête, des meurtres qui ne se ressemblent pas, pourtant commis par un seul homme. Lui-même très décousu, absolument incapable de dire pourquoi il a tué trois fois. Aujourd'hui, c'est l'été. Nous sommes le 21 juin 2002 à Beauvais, dans l'Oise. Et Léo Capon doit garder son petit-fils. Et elle est en retard. La mère, qui doit aller bosser, essaye de l'appeler. Elle tombe sur son répondeur. Maman ? Maman, c'est moi, c'est Daniel. Je t'appelle au cas où t'aurais pas vu l'heure. Il est presque 3h30. Faudrait que j'aille bosser. Et Jérémy t'attend. Tu tardes pas ? Mais le temps passe et Léo, la mamie, n'est toujours pas là. Bon, écoute mon chéri, tu restes là sagement. Allez, t'as le droit de regarder la télé. Je vais chercher mamie, je reviens dans 5 minutes, d'accord ? Le foyer où habite la mamie est tout près. Et quand elle arrive en bas, sa fille voit que chez sa mère, la fenêtre est grande ouverte. Elle monte, elle sonne, pas de réponse. Elle descend voir le gardien, elle veut lui demander la clé, il est occupé. Alors elle remonte et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est ouvert. La porte n'est pas fermée à clé. Alors elle entre. Maman ? Maman, tu es là ? Dans l'appartement, c'est le souk intégral, un capharnaüm. Mais ce qui l'inquiète tout de suite, ce sont les traces de sang sur le sol. Elle les suit jusqu'aux toilettes.
Oh, maman ! Oh !
Sa mère est couchée sur le dos, la jupe relevée. Il y a du sang partout. Elle a été égorgée. Un instant, Daniel se dit que peut-être elle n'est pas morte. Alors elle se penche, elle prend son pouls. Elle est morte. Les policiers de Beauvais arrivent dans la foulée. Madame ? Pardon de vous poser cette question, mais est-ce que vous pensez qu'on lui a volé quelque chose ? Daniel fouille l'appartement de sa mère. Elle trouve son porte-monnaie. Il y a un peu d'argent dedans. Non, on lui a rien volé.
Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui vole à ma mère ? Elle n'avait rien, ma mère.
Eh ben si, on lui a volé quelque chose. Les placards de la cuisine sont vides, totalement vides. Il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de conserve, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. On l'aurait égorgé pour lui voler de la vaisselle et un paquet de pâtes et une boîte de biscuits. Au milieu du bazar, les policiers trouvent un sac poubelle près de la porte. Ils l'ouvrent.
Ça appartenait à votre mère, tout ça ?
Daniel regarde. C'est la vaisselle la vaisselle de sa mère en vrac dans le sac poubelle. Près du corps, les policiers trouvent aussi un couteau.
Et ça, là, le couteau, c'est à elle ?
Ah non, ça n'est pas à elle. C'est un couteau de chasse, un couteau à gibier, très tranchant. Est-ce que ça serait l'arme du crime ? C'est l'APJ de Creil qui récupère l'enquête. Elle procède à des relevés d'empreintes, digitales et génétiques. Elle prend des photos et elle commence par aller voir les voisins. Classique. Léo Capon vivait dans un foyer social, 300 locataires, et donc autant de suspects. Mais l'avantage de ce genre d'établissement, c'est qu'il y a des caméras dans le hall et dans les couloirs. Alors les policiers visionnent les vidéos de la soirée. Et vers 19h, l'une des caméras filme un homme qui entre dans l'immeuble. Elle filme le même homme qui ressort de l'immeuble 2 heures plus tard, avec des sacs poubelles à la main. C'est lui, c'est notre homme. Malheureusement, la caméra est installée un peu haut, les images ne sont pas de très bonne qualité, on ne voit pas son visage. Mais c'est lui, c'est sûr. Le lendemain, le médecin légiste confirme que Léo Capon, 73 ans, a été égorgé avec un couteau. Est-ce que c'est avec le couteau qu'on a retrouvé sur place ? Possible, mais pas sûr. Le couteau a été nettoyé, il n'y a aucune trace, ni de sang, ni aucun ADN dessus. Voilà comment ça commence.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui débute par la découverte d'un corps. Le 21 juin 2002, dans un foyer social de Beauvais. Une grand-mère de 73 ans, Léo Capon, elle a été égorgée. De la nourriture a disparu de ses placards, ainsi que de la vaisselle. La télésurveillance de la résidence montre un homme qui entre dans l'immeuble vers 19h et qui en ressort 2 heures plus tard, avec des sacs poubelles. Malheureusement, les images sont difficilement exploitables, on ne voit pas son visage. Nous en étions là. De la bande vidéo, les policiers tirent une photo. On ne voit pas son visage, mais on voit au moins une corpulence, une silhouette. Quand il arrive, il est tête nue, il a le crâne dégarni. Quand il repart, il a une casquette. Les flics montrent la photo aux 300 occupants du foyer.
Bonjour, c'est la police judiciaire. Vous pouvez regarder cette photo ? Ça vous dit quelque chose ? Vous reconnaissez quelqu'un ?
Non, personne ne reconnaît personne. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Dans ce genre de foyer, il passe beaucoup de monde. Les policiers explorent aussi la piste de la famille. Mais pas longtemps, Léo Capon était originaire d'Amiens. Passé 70 ans, elle avait voulu se rapprocher de sa fille et de son petit-fils. Elle avait emménagé à Beauvais. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas d'héritage en jeu. Ah, important, on a retrouvé un ADN sur la scène de crime. Un ADN masculin. Malheureusement, on l'a passé au fichier, il ne correspond à aucun ADN en stock. C'est assez rageant parce que on a affaire à un type qui commet beaucoup de fautes, qui laisse son ADN, qui se fait filmer par une caméra, mais ça n'avance à rien. La guigne. Voilà une enquête qui est mal barrée. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire, que les policiers, bien sûr, ne vont pas relier tout de suite à la précédente. Et pourtant, cette histoire se déroule quelques semaines plus tard, loin de Beauvais, à Saint-Étienne, dans la Loire. C'est l'histoire d'un papa qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils Sylvain. Sylvain Rome, 32 ans, caméraman de profession. Il appelle les pompiers, ils enfoncent la porte de son appartement et ils trouvent Sylvain, mort, en caleçon sur son lit, couché sur le ventre, dans un état de putréfaction avancé. « L'appartement est en ordre, il n'y a pas de traces d'effraction, la vaisselle est faite. Ça fait penser à un suicide. Mais il manque son portable et il manque son chéquier. Les suicidés se débarrassent rarement de leur portable avant de se suicider. Mais la piste du suicide est vite abandonnée quand on reçoit les premiers résultats de l'autopsie. Ça n'était pas évident sur le corps putréfié, mais Sylvain Rome a été tué à coups de couteau. Il a dû se débattre, il a des traces sur les bras. Mais il y a mieux que ça. On a trouvé du Lexomil dans son estomac, un anxiolytique, et pas mal d'alcool dans son sang, 1,45 g. Et ça, alcool plus Lexomil, ça veut dire que quand il a été tué, Sylvain était dans le potage. Alors est-ce que Sylvain était dépressif? Est-ce qu'il était sujet à des angoisses? Eh ben non. Les policiers interrogent ses copains, et notamment un certain Lucien.
Vous me dites que c'était le 15 juillet? Ah ben je l'ai vu ce jour-là.
Où ça? Chez lui?
Non, non. On s'est vu dans un bar, un endroit où on va tout le temps, ça s'appelle l'Endroit. Je pense que je suis arrivé vers 14 heures. Il était là, au comptoir.
Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le bar?
Ah ouais, ouais. Il y avait un type que je connaissais pas, justement. J'ai parlé vite fait avec lui. Il m'a dit qu'il était informaticien. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que deux minutes après, je l'ai entendu dire au barman qu'il était kiné. Bref, je me suis dit, c'est un gars bizarre. Mais c'est vrai que ce gars bizarre, il a parlé à Sylvain.
Et Lucien, ensuite, quitte le bar L'Endroit. Mais le serveur raconte la suite. Ils ont parlé boulot. Et le type bizarre a dit à Sylvain, dont je rappelle qu'il était caméraman, qu'il connaissait du monde dans l'audiovisuel. Le serveur dit qu'ils sont partis tous les deux, ensemble. Il était environ 4 heures. Grâce à un ticket de caisse trouvé dans l'appartement, les policiers savent qu'ensuite, Sylvain est allé dans une petite épicerie. Il a acheté une bouteille de whisky et du Coca-Cola. Le type était avec lui. On peut donc supposer qu'après, ils sont allés se faire un petit apéro, tous les deux, chez Sylvain. Vers 5 heures, un autre copain de Sylvain, David, raconte qu'il vient sonner.
Et là, c'était bizarre. Je l'ai senti embarrassé à l'interphone. Il m'a dit qu'il était occupé. Il n'a pas voulu que je monte.
Étrange. Le premier copain, Lucien, qui l'a vu au bistrot, est prié de décrire dans le détail le type bizarre, l'informaticien kinésithérapeute.
Il est brun, légèrement dégarni. Je dirais de type nord-africain. Il porte des lunettes. Il présente bien, hein. Il s'exprime bien.
Les policiers dressent son portrait robot. Mais ça n'amène à rien. L'enquête sur le meurtre de Sylvain Rome débouche, elle aussi, sur une impasse. C'est une troisième affaire qui va débloquer les deux enquêtes. Et là, retour à Beauvais, dans l'Oise, quelques semaines plus tard, le 13 septembre, dans le quartier Argentine. Une vieille dame, Liliane Michaud, 82 ans, rentre de son Intermarché avec son déambulateur. Et juste devant chez elle, un homme la bouscule, il la frappe au visage, il la fait tomber au sol, il lui vole son porte-monnaie et il s'enfuit. Liliane appelle la police et par le plus grand des hasards, arrive un policier qui était déjà intervenu 3 mois plus tôt dans l'enquête sur le meurtre de Léo Capon. Et quand il voit la sauvagerie des coups portés au visage de Liliane, il fait tout de suite le rapprochement.
Vous sauriez le reconnaître, cet homme, Madame Michaud?
Ah, ça pour sûr. Je l'ai bien vu. Et même quand j'étais à terre, j'ai fait un effort pour me relever. Et j'ai bien regardé sa tête.
35-40 ans, brun, crâne dégarni. Les policiers filent tout de suite à l'Intermarché, en se disant, il l'a suivi, peut-être que quelqu'un l'a vu et l'a reconnu. Quand ils font au vigile la description de l'agresseur de Liliane, ils ont tout de suite un nom à proposer.
Ça serait pas Adouche? Jackie Adouche. Il sort de prison. Il vient souvent.
Les flics passent le nom au fichier. Jackie Adouche, 38 ans, a déjà ce qu'on appelle un joli palmarès. 6 ans de tôle pour vol avec violence, il est sorti il y a 7 mois. Et avant de voler, il fourguait des médicaments à ses victimes. Intéressant. Il a aussi été condamné pour viol collectif quand il était mineur, à 17 ans.
et c'est un ancien toxico. Alors, où est-ce qu'il est, Jackie Hadouche? Les vigiles de l'Intermarché appellent pour dire qu'ils viennent de le croiser, près d'un magasin. Les policiers déboulent à toute berzingue, ils le filogent, ils le photographient de loin, et puis il disparaît. Jackie Hadouche, leur suspect numéro un, s'est volatilisé.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 2002, l'affaire Jackie Hadouche, que je vais débriefer tout à l'heure avec son avocat Karim Bellouni. Après l'agression d'une vieille dame en septembre à Beauvais, dont le sac a été arraché, la police judiciaire de Creil identifie un suspect, un certain Jackie Hadouche, qui sort de prison. Il serait bien tenté de lui coller en plus le meurtre d'une autre vieille dame commis 3 mois plus tôt, mais il se met à sa recherche, il a disparu. Et il réapparaît 3 jours plus tard. Mais très loin de Beauvais, il réapparaît à Nîmes, dans le Gard. Et une fois de plus, au lieu de se faire discret, il se fait remarquer. Il casse une vitre à la gare, un vigile l'aperçoit, il prévient une patrouille de police, le type est arrêté un peu plus loin, planqué entre 2 voitures. Il est bourré comme un coin, alors les policiers le collent en cellule de dégrisement et ils attendent le lendemain matin pour l'interroger.
Alors, non ? Prénom, adresse, profession, je vous écoute. Je m'appelle Saïd Hadouche. Je suis kinésithérapeute.
Le flic qui l'interroge le trouve nerveux. Trop nerveux, finalement, pour un type qui n'a fait que casser un carreau à la gare. Alors il prend ses empreintes digitales et il les passe au fichier. Il est recherché par la police judiciaire de Creil pour un meurtre. Et c'est pas Saïd Hadouche qui s'appelle, mais Jackie Hadouche. Les flics nîmois appellent tout de suite leurs collègues de Beauvais. Et Hadouche est transféré dans l'Oise dans la journée. Et pendant qu'il est en route, les flics de la PJ de Creil vont chez lui pour une perquisition. Et ils tombent sur de la vaisselle et sur du linge qu'ils montrent à la fille de Madame Capon.
« Ah ben je les reconnais. Ce coussin, il est de chez ma mère. Il y en avait deux, l'autre est toujours là-bas, je crois. Et puis ça, c'est son dessus de lit. Ah oui, je suis sûr. »
Alors dès qu'Hadouche se retrouve en garde à vue, on lui pose la question.
« Monsieur Hadouche, ce dessus de lit, là, ce coussin, et puis ces casseroles, elles sont à vous, monsieur Hadouche ?»« Ah ben oui. Ah, c'est Frédéric, le voisin. Il me les a données. »
Alors ils vont voir tout de suite le voisin généreux. Il n'a jamais rien donné. En revanche, au mois de juin, il a bien vu Hadouche rentrer chez lui un soir, avec des sacs poubelles, pleins de vaisselle et pleins de linge. Mieux, il avait une grande tache de sang sur son imperméable. Les flics lui montrent la vidéo de l'Intermarché.
Je vous préviens, l'image est pas bonne, mais comme vous le connaissez bien, peut-être que vous allez pouvoir nous dire si c'est lui ou pas.
Le voisin le reconnaît formellement. Et donc la juge d'instruction, à la fin de la garde à vue, le met en examen pour le meurtre de Léo Capon et l'agression de Liliane Michaud à la sortie de l'Intermarché. On lui a présenté l'oiseau, elle l'a reconnu à 100%. Vous noterez que pour l'instant, ils ne font pas du tout le lien avec le meurtre de Sylvain Rome à Saint-Étienne. Ça viendra plus tard. Mais maintenant il faut que je vous dise qui est ce Jackie Hadouche. Ce type qui aurait tué Léo Capon pour un oreiller, un dessus de lit et une batterie de casseroles usagées. Que les choses soient bien claires, je ne cherche pas à l'excuser. Mais quand vous saurez d'où il vient, alors vous vous direz peut-être que voilà un type qu'on avait comme programmé pour tuer. Jackie Hadouche est un fils de harki. Son père était soldat dans l'armée française en Algérie. À l'indépendance en 62, il a choisi la France et il s'est installé à Beauvais. Jackie est né 2 ans plus tard, 3e d'une fratrie de 12 enfants. Le père trouve un emploi d'ouvrier et il se met à picoler. Et quand il est bourré, il est violent. Il frappe sa femme et il frappe les gamins et il menace en permanence de les tuer. Il dit des trucs comme «
Ah ben je vais vous construire 12 cercueils, hein, et puis vous mettre dedans. Tas de bons à rien.
Du coup, à l'école, Jackie est en permanence à côté de ses pompes. Il est agressif, il est impulsif. À 15 ans, le juge des enfants le place dans un centre. Mais Jackie fait des fugues et il revient régulièrement chez lui. Et c'est là qu'à l'âge de 16 ans, il va vivre une scène extrêmement traumatisante. La mère annonce qu'elle veut divorcer. Le père pète les plombs, il attrape un fusil et devant Jackie, il se tire une balle dans la tête. Jackie est à un mètre de lui. Il a du sang partout, le sang de son père. Et son père s'effondre dans ses bras. Dans ses bras. À 16 ans. Et après, que voulez-vous? Il se met à déconner. Il participe à un viol collectif à 17 ans. Il signe des vols avec violence. Et vous connaissez la suite. Voilà. Voilà qui est le type qui a tué Léo Capon pour un coussin, un dessus de lit et une batterie de casserole. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, je pense que vous ne découvrez pas que la plupart des grands tueurs, et c'est un grand tueur, ont tué des enfants fracassés.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une enquête criminelle qui débute en 2002, l'affaire Jackie Hadouche, que je vais débriefer tout à l'heure avec son avocat, Karim Bellouni. Jackie Hadouche est arrêté fin 2002 et il est accusé d'avoir égorgé une vieille dame à Beauvais, Léo Capon, pour lui voler des broutilles, un coussin, un dessus de lit, de la vaisselle. Au moment de son arrestation, on découvre qu'il a un passé judiciaire très lourd. Plusieurs condamnations pour des vols avec violence et un viol en réunion quand il était mineur. Mais l'enquête va permettre de lui coller deux autres meurtres. Et oui, comment croire que Jackie Hadouche tue pour la première fois en 2002? Est-ce qu'il a tué avant? Les policiers de Creil ressortent tous les vieux dossiers non résolus, les fameux cold cases. Et ils tombent sur une affaire de 1992, 10 ans plus tôt, dans laquelle ils s'aperçoivent qu'Hadouche a été soupçonné et placé en garde à vue, et interrogé, et puis finalement relâché. La mort d'un professeur du lycée de Beauvais qui s'appelait Gilles Canette. Son corps est découvert le 1er décembre 92 par sa femme de ménage chez lui. L'autopsie révèle la présence dans son corps d'alcool et de tertian, un puissant neuroleptique utilisé en psychiatrie. Au début, on pense à un suicide, jusqu'à ce qu'on découvre que le soir de sa mort, on a retiré 1800 francs sur son compte en banque. Et du coup, la scientifique passe l'appartement du professeur au peigne fin et elle trouve une empreinte digitale. Et c'est celle de Jackie Hadouche. Alors on le place en garde à vue, on l'interroge. Il dit qu'il est allé chez Gilles Canette, qu'il le connaissait, mais qu'il n'est pour rien dans sa mort. Il dit que le jour du meurtre, il était à Paris, il était chez une amie, chez Chloé. Laquelle Chloé confirme l'alibi. Alors on le remet en cellule de garde à vue, et dans la soirée, il se taillade les veines avec un briquet. On l'emmène à l'hôpital, et on en reste là. La mort de Gilles Canette reste non élucidée. Et du coup, 10 ans plus tard, eh bien, on réouvre le dossier. On fait revenir la fameuse Chloé. Elle reconnaît qu'elle a menti. Jackie Hadouche n'était pas chez elle, à Paris, le jour où Gilles Canette est mort. Et un meurtre de plus sur le dos de Jackie Hadouche. Et en fouillant comme ça dans les vieux dossiers non élucidés, on trouve aussi d'autres affaires. Un viol sur une femme de Beauvais, une tentative de viol sur une autre femme à Boulogne-sur-Mer. L'ardoise s'allonge. La juge d'instruction fait alors diffuser une circulaire dans toute la France. Elle demande qu'on lui remonte tous les dossiers non résolus qui pourraient coller avec le profil de Jackie Hadouche. Et au passage, elle joint une photo de l'oiseau. Et c'est là que le commissariat de Saint-Étienne se réveille et ressort le dossier de l'assassinat du jeune Sylvain Rome. Vous vous souvenez le caméraman qu'on avait retrouvé en caleçon en état de décomposition avancée sur son lit? L'après-midi de sa mort, il avait rencontré dans un bar un brun au crâne dégarni. Et si c'était Jacky Haddouche? On découvre d'abord que Haddouche a de la famille à Saint-Étienne. Alors on fouille dans ses relevés téléphoniques. Et le 15 juillet 2002, le jour où Sylvain Rome est tué, Haddouche est à Saint-Étienne, dans le quartier de Sylvain Rome. Alors on fait venir Haddouche à Saint-Étienne, on le présente au copain de Sylvain Rome, celui qui a vu Sylvain avec un type bizarre au bistrot, vous vous souvenez? Il le reconnaît tout de suite. Interrogé pourtant, Haddouche nie. Mais il est mis en examen et un meurtre de plus. Ça fait trois. Jacky Haddouche serait donc un tueur en série. Un serial killer. Enfin, un tueur en série potentiel, parce que maintenant, il faut le juger. Le premier procès concerne l'affaire de Saint-Étienne, le meurtre de Sylvain Rome. Il s'ouvre en avril 2006. Quand Haddouche débarque dans le box, il est complètement groggy. En prison, on le bourre de cachetons pour le calmer. Et il passe tout le procès à dire « c'est pas moi, je n'ai pas tué Sylvain Rome ». Mais la preuve qu'il ne convainc pas beaucoup, à la fin, les jurés le condamnent à 30 ans de prison assortis de 20 ans de sûreté. Il fait appel. Mais finalement, il renonce à son appel comme quelqu'un qui a compris que ça ne servait à rien. Deux ans plus tard, en avril 2008, le voilà devant la cour d'assises de Beauvais pour le meurtre de Gilles Canette et pour le meurtre de Léo Capon, mais aussi pour un viol et une tentative de viol. Et là encore, dans le box, il est complètement stone. Pendant tout le procès, il nie. Il n'a rien fait, il n'y est pour rien. Mais là encore, les jurés ne le croient pas et ils le condamnent à perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est la peine maximum. Mais là encore, il fait appel. Il est donc rejugé en mars 2009 devant la cour d'assises d'Amiens. La veille du procès, la présidente le fait venir dans son bureau. Ça n'est pas systématique, hein, ça, mais ça arrive. Elle veut lui expliquer comment elle voit le procès. Et là, pendant cet entretien, elle sent qu'Haddouche est prêt à parler. Il lui laisse entendre que, peut-être, cette fois-ci, il va dire des choses. Alors le lendemain, quand il arrive dans le box, groggy, comme les autres fois, la présidente, qui s'appelle Isabelle Serin, lui demande d'entrer « Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?» Haddouche s'approche du micro.
« Oui, le meurtre de Madame Capon, c'est moi. J'ai fait une connerie. »
Sur le banc des parties civiles, la famille de Léo Capon se dit « Ça y est, on va savoir pourquoi. » Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Il ne donnera pas de détails, il ne dira pas pourquoi. Il avait beaucoup bu, il dit qu'il s'en est pris à elle par hasard. « J'ai fait une connerie. » Contentez-vous de ça. Et pour le meurtre de Gilles Canette alors? Là c'est toujours non, ça n'est pas lui. Évidemment, au cours de ce procès, on parle de son enfance. Deux de ses frères viennent raconter le père alcoolique et violent, le suicide devant eux, le père mort qui tombe dans les bras de Jacky. Le délibéré dure 3 heures et Jacky Haddouche est condamné pour les 2 meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, comme en première instance. Quelques mois plus tard, Jacky Haddouche décède dans sa cellule de la prison de Fresnes. Hémorragie cérébrale. Il avait 45 ans, il avait passé 25 ans de sa vie derrière les barreaux.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jacky Haddouche et qui, à la fin des années 90 et au début des années 2000, a commis 3 meurtres, une vieille dame,
un professeur et un caméraman. Il a été condamné pour tous ces crimes, mais il n'a jamais livré d'explication. Et on ne l'a jamais non plus vraiment entendu assumer ses crimes, à l'exception du meurtre de la vieille dame, Léo Capon. Et pour le coup, un débrief est indispensable, et je suis avec l'un de ses avocats, maître Karim Bellouni. Pardon, maître, pour mes premières questions, mais je trouve que c'est une occasion d'apprendre plein de choses sur votre métier. Ce sont des choses dont on ne parle jamais. À quel âge est-ce que vous prenez ce dossier?
Le dossier...
2002, donc.
Mais écoutez, j'ai 30 ans.
Vous avez 30 ans, vous sortez de l'école d'avocat?
Oui, ouais, quasiment. Ouais.
Comment est-ce qu'à 30 ans, on se retrouve avocat d'un futur tueur en série?
À l'époque, j'étais secrétaire de la conférence et donc j'ai été commis d'office pour défendre Jacky Haddouche.
Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que d'être secrétaire de la conférence? Ça n'existe qu'à Paris, au barreau de Paris.
Alors, ça existe dans d'autres barreaux.
Ouais. Ça a été inventé à Paris, ça existe depuis des décennies. C'est un concours.
C'est un concours d'éloquence qui vaut ce qu'il vaut, mais à l'issue, pendant un an, pour 12 lauréats.
Les meilleurs, les 12 meilleurs, ceux qui plaident le mieux.
Entre guillemets, vous avez d'excellents confrères et d'excellents plaideurs qui ne sont pas secrétaires de la conférence. Mais bon, en l'occurrence, vous avez ce concours, et à l'issue, vous avez 12, à l'issue d'un concours où il y a 3 tours. On vous demande de plaider sur un certain nombre de sujets. On en élit 12, et ces 12, pendant un an, on le monopole des commissions d'office dans la cour d'assises. Voilà.
C'est-à-dire que systématiquement, le bâtonnier leur donne les grosses affaires criminelles des gens qui demandent des avocats commis d'office.
Exactement. Voilà, je vous donne un exemple historique, c'est Alberno qui était un résistant. Était secrétaire de la conférence, il a été commis d'office pour défendre Laval. Ouais. Voilà.
Donc commis d'office, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez consacrer au cas de Jacky Haddouche autant de temps que pour un client qui paye?
Autant de temps, oui, tout à fait. Vous ne faites pas la distinction, c'est-à-dire que vous êtes commis d'office et soit vous acceptez, soit vous refusez. Mais à partir du moment où vous acceptez, vous vous dévouez à la défense de la personne qui vous a été désignée.
Ça veut dire que vous allez le voir en détention avant le procès, à toutes les phases de la procédure.
Vous l'assistez pendant tout. Si c'est au stade de l'instruction, vous l'assistez pendant tout le stade de l'instruction.
Toutes les gardes à vue,
les interrogatoires, les confrontations, et puis si vous êtes désigné au moment du où le dossier est renvoyé devant la cour d'assises, vous avez plaidé pour lui devant la cour d'assises.
Juste une petite question comme ça pratique. C'est rémunéré combien? Parce qu'il y a la fameuse aide juridictionnelle. Vous êtes rémunéré combien pour ce genre de procès d'assises? Détaché des questions matérielles?
Non, pas du tout. C'est que je pense que c'est quelques centaines d'euros, mais c'est
des mois de travail.
Et c'est très mal payé. Pour dire les choses comme elles sont, c'est très mal rémunéré. En tout cas, vous le faites pas ça pour la rémunération que ça vous rapporte. Vous faites pas du tout, vous inscrivez pas sur les commissions d'office pour l'argent que ça vous rapporte.
Alors, vous avez 30 ans et vous vous retrouvez avec un dossier extrêmement lourd. Et un bonhomme avec lequel vous pouvez avoir une conversation ou pas?
Alors, si on parle du cas de Jacky Haddouche, oui, sous réserve, avec la limite de ce que Jacky Haddouche était sous médicaments.
Tout le temps?
Tout le temps. Et donc le contact était possible, bien sûr, avec cette limite-là.
Comment est-il avec vous?
Vous savez, les clients, et lorsque vous avez des clients qui sont détenus, vous montrent leur humanité. Donc, on le présente comme un tueur en série, on le présente comme
un monstre,
voilà. Sauf que la personne humaine est protéiforme, elle a plusieurs caractères, et Jacky Haddouche m'a montré son humanité. Voilà. Donc, c'était quelqu'un avec qui je travaillais sur ses dossiers dans la limite de ses capacités, et nous échangeions sur son dossier.
Il choisit, devant les différentes cours d'assises devant lesquelles il comparait, et devant le juge d'instruction avant ça, de nier la totalité des meurtres. Il n'admet qu'un meurtre à la fin, lors du dernier procès. Il vous contraint de nier avec lui?
Il ne me contraint pas. C'est-à-dire qu'on a choisi un axe de défense ensemble, et que nous avons plaidé devant la cour d'assises.
C'est important, on a choisi ensemble. Est-ce que Jacky Haddouche est le genre de bonhomme qui vous laisse à vous une part d'initiative, ou quand il est avec vous ou par leur avocat, il vous dit on nie, on nie, on nie?
D'abord, il y a un dossier. avec un certain nombre de faits. Donc vous faites avec le dossier et vous faites aussi avec les volontés de votre client et en fonction de la volonté du client, de vos conseils qu'il prend ou ne prend pas en compte et du contenu du dossier. Si vous acceptez de le défendre, vous prenez une ligne de défense.
Est-ce que vous essayez de le faire bouger là-dessus ? Parce que dans le dossier, il y a de l'ADN, il y a des empreintes digitales, il y a des images concernant le meurtre de Léo Capon, par exemple. Dès le premier procès, c'est lui.
Enfin, c'est lui. Il y a une vérité judiciaire, donc la justice est passée.
Donc c'est lui.
C'est lui aux yeux de la justice. Maintenant, le dossier contenait un certain nombre de points qui permettaient de plaider et de soulever un doute quant à sa culpabilité.
Pourquoi est-ce qu'il nie, selon vous, des choses qui apparaissent comme évidentes? Il peut y avoir un doute sur le meurtre de Sylvain Rome. C'est probablement le dossier qui est le moins étayé sur le plan des preuves. Mais concernant Léo Capon, par exemple, il y en a peu. Pourquoi est-ce qu'il nie, selon vous? Est-ce qu'il veut se défausser quant à une explication?
C'est très difficile de rentrer dans la psychologie. Il a fini par admettre devant la cour d'appel, dans votre documentaire, il y a un point qui a été omis, c'est qu'en fait, il a spontanément écrit au président de la cour d'assises d'Amiens pour dire que finalement, il admettait sa responsabilité
dans le meurtre de Léo Capon.
Dans le meurtre de Léo Capon. Voilà.
Il fait ce chemin tout seul ou c'est vous qui l'amenez là-dessus?
Non, il fait ce chemin tout seul.
Et il vous consulte pas, en vérité.
Bah après, sachant que nos discussions sont aussi couvertes par le secret professionnel, il y a ce qui s'est passé devant la cour d'assises dans le cadre d'un débat public, et puis ensuite, il y a dans le secret de discussion avec son avocat qu'un certain nombre de choses ont été évoquées. Voilà. Je peux pas vous en dire plus là-dessus.
C'est important parce que c'est très honorable de votre part. Il y a des avocats qui tiennent absolument pas ce secret, vous le savez pertinemment. Ouais, ouais. Il y a des avocats qui aujourd'hui, puisque Jackie a douché mort, que par ailleurs il est catalogué salopard, viendrait s'asseoir là et dirait, bon, bah, je vais vous dire la vérité, je l'ai amené lentement là-dessus, c'était un type, oui, il était coupable de tout, je l'ai amené lentement à avouer au moins un crime pour la famille de Léo Capon.
Non, mais encore une fois, la justice est passée, après il y a des dossiers dans lesquels existaient des doutes, comme le dossier de Saint-Étienne, et ensuite pour Léo Capon, Jackie Hadouche a fini par admettre. Après, ce qui a été discuté entre lui et son avocat reste entre lui et son avocat.
On marque une pause, une de plus, et ensuite je voudrais qu'on parle de ce qui, logiquement, dans la logique de ce qu'est une cour d'assises, devrait peser comme une circonstance atténuante majeure, le fait que son père soit mort, suicidé dans ses bras, qu'il ait été éclaboussé du sang de son père, c'est un traumatisme qui peut expliquer beaucoup de choses. Est-ce qu'on plaide ça devant une cour d'assises? Et est-ce qu'une cour d'assises est capable de l'entendre? À tout de suite. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série qui s'appelait Jackie Hadouche et qui, à la fin des années 90, au début des années 2000, a commis 3 meurtres. Il a tué une vieille dame, un professeur et un caméraman. Les meurtres se sont déroulés à Beauvais et à Saint-Étienne. Il a été condamné pour tous ses crimes. Il n'a jamais livré d'explication et il n'a jamais vraiment assumé ces crimes-là, à l'exception d'un seul meurtre qu'il a avoué lors du dernier procès, celui de la vieille dame Léo Capon. Et je suis avec vous, maître Karim Bellouni. Vous avez été son avocat tout au long de la procédure, de sa mise en examen jusqu'à sa dernière condamnation. Et je voudrais savoir si c'est la connaissance que vous avez eue du trauma qui vous a dit ça m'intéresse d'aller défendre ce bonhomme.
C'est une des dimensions je dirais humaines de ce dossier qui était peu commune et qui était c'est un facteur de motivation pour la défense de Jackie Hadouche. Oui.
Parce que ce sont des choses qui sont absolument récurrentes dans le profil de la plupart des grands tueurs. Ils ont souvent eu des enfances comme ça fracassées, mais beaucoup de vieux avocats ont renoncé à plaider ça. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils le plaident depuis 20 ans, que certes le bonhomme a des circonstances atténuantes parce qu'il a souffert toute son enfance comme un martyr, mais que devant une cour d'assises, ça pèse à rien. Vrai ou faux?
Alors, d'abord, je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça vraiment une circonstance atténuante techniquement, mais bon, oublions deux secondes la technique. Je pense que l'avocat, de manière générale, et l'avocat de la défense en particulier, d'abord, un n'est pas là pour servir la soupe, donc il n'est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. S'il y a des choses qui sont désagréables à entendre, mais qu'il faut dire, il faut les dire. Et l'autre point, c'est qu'il faut jamais renoncer. Donc tout ce qui peut contribuer à la défense des intérêts de vos clients, même si vous avez l'impression de parler à un mur, à une institution qui n'écoute pas ou qui n'entend pas, je pense qu'il ne faut pas renoncer. Parfois, elle écoute et elle entend. Voilà.
Je pense aux gens qui nous auraient rejoints dans le dernier quart d'heure, qui n'ont donc pas entendu la totalité du récit. Vous pourriez, à votre manière, nous rappeler ce qu'a vécu Jackie Hadouche, tueur en série, à l'âge de 16 ans, et dont il a été victime, pour le coup.
Alors, il y a un contexte familial qui est dramatique, puisque il grandit dans une famille déracinée, comme vous l'avez rappelé à juste titre, son père est un harki. Il choisit la France. La France l'accueille dans une banlieue à Beauvais, dans des préfabriqués qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été remplacés 20 ans après, enfin, elles datent de la Libération. Et il vit dans une promiscuité avec ses 11 frères et sœurs, avec un père alcoolique, analphabète, qui travaille dans une usine à côté. Il est victime des violences de son père, des violences physiques, des violences verbales. Et à l'âge de 16 ans, un huissier se présente au domicile de son père pour lui notifier une procédure de divorce. Et c'en est trop pour le père qui, sous les yeux de son fils, enfin, il est son fils et à 10 mètres de lui, il se tire une balle dans la tête et s'effondre dans les bras de son fils, Jackie Hadouche, qui ne s'en remettra jamais.
Et tous les enfants sont là, les 12 enfants ?
Non, c'est Jackie Hadouche qui est là. Il y a un autre frère ou deux autres frères qui sont plus loin, ou une sœur de mémoire, mais c'est Jackie Hadouche qui est là. Ouais.
Il vous en a parlé de cette séquence, alors, Jackie Hadouche.
Il en parle. Ça figure dans le dossier d'instruction. Ça figure dans le dossier d'instruction parce que ses frères.
C'est l'enquête de personnalité.
C'est l'enquête de personnalité. Ses frères et sœurs en parlent, et donc, mais lui n'en parle pas.
Non, lui-même ne vient pas poser ça sur la table comme une excuse.
Non, pas du tout.
Il ne l'exploite pas.
Non.
Il est amené pendant les différents procès d'assises, parce que j'imagine que l'histoire revient aux 3 procès d'assises. Il est amené à la commenter, à s'expliquer là-dessus, à dire quelque chose.
Alors c'est un point qu'on ne peut pas ne pas évoquer dans la cour d'assises, puisque la cour d'assises, et pour tout ce qui est crime, vous avez la procédure impose une expertise psychiatrique, une expertise psychologique, et donc une partie des débats dans la cour d'assises est consacrée à l'examen de la personnalité et puis à l'examen de l'expertise psychiatrique. Donc, on ne peut pas passer à côté.
Les frères viennent témoigner ?
Les frères viennent témoigner, oui.
Parce que toute la famille est fracassée. On parle là de Jackie, mais sur la fratrie, il y a un paquet qui passe en prison dans ces années-là.
C'est une famille qui... c'est une famille brisée, comme vous dites. Ouais.
Alors, quand vous plaidez ça ? Ça d'abord ? Ou vous plaidez d'abord le dossier, et ça à la fin ?
Alors, on le plaide à la... Enfin, je l'ai plaidé de mémoire. Je parle ça de mémoire parce qu'effectivement, c'était il y a quelques années, mais j'ai plaidé ça à la fin de mon intervention, ouais. Oui.
Et on trouve facilement les mots ?
Le drame est tel, oui, qu'on trouve les mots pour... parce que notre rôle est là, si vous voulez. On défend la personne, jamais l'acte. On défend la personne. On est là pour rappeler aussi que les personnes jugées pour crime, et quelle que soit l'issue de la procédure, mais la criminalité ou ce qu'on appelle l'horreur, c'est un visage humain. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de considérer que face à vous, vous avez un monstre, plutôt que considérer que vous avez une personne humaine qui, dans des circonstances très précises, a basculé dans la criminalité, dans ce qu'on qualifie d'horreur. Voilà.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement Jackie Hadouche n'est pas totalement responsable du bonhomme qu'il est devenu ?
Il est responsable et juridiquement il a été jugé responsable. Il n'a pas, on n'a pas considéré qu'il y avait une abolition de son discernement et que donc il ne pouvait pas être, il pouvait pas faire l'objet d'une sanction. Légalement, juridiquement, Jackie Hadouche était responsable des faits qu'il avait reconnus et des faits pour lesquels il a été jugé. Après, je pense que son cas est aussi symptomatique d'une faillite. C'est une faillite des systèmes sociaux, des systèmes. De suivi de... c'est une faillite totale, c'est-à-dire que l'aide à l'enfance, ceux qui ont suivi les services sociaux, qui l'ont suivi les premières condamnations, est-ce que les premières condamnations ont été adaptées, l'envoyer si jeune en prison, est-ce que la prison a été une réponse à sa situation, le cas de Jackie Hadouche, et puis aussi, si on veut remonter encore plus loin, la prise en charge de ces familles qui ont quitté l'Algérie, qui ont fait le choix de la France, donc c'est une faillite, c'est une succession de faillites, le cas de Jackie Jacky Haddouche?
Alors Jacky Haddouche est mort très vite après sa dernière condamnation. Il est mort de maladie en prison. Ça s'explique probablement par les médicaments qu'il prenait. C'était des neuroleptiques assez puissants. C'était un type assommé.
Ouais, c'était un type assommé de médicaments.
Y avait-il quelqu'un pour le pleurer?
Sa famille était là pour le pleurer, ouais.
Il y a eu des obsèques?
Oui, il y a eu des obsèques.
Vous y étiez?
Oui, non, j'étais pas.
Vous y étiez pas?
Non, j'étais pas.
Mais il y a eu des obsèques.
Il y a eu des obsèques.
Il y a quelqu'un qui a pleuré ce type-là?
Ça reste un frère et ça reste. Ça reste un frère, ça reste un fils pour une mère et ça reste un être humain. Donc, j'espère qu'il y avait quelqu'un pour le pleurer.
C'était Ondelat raconte sur Europe 1, de retour demain, même endroit, même heure. Christophe Ondelat vous racontera l'affaire Marcel Le Chien, cet instituteur condamné au début des années 2000 pour agression sexuelle sur mineurs. Ondelat raconte, c'est donc demain entre 14h et 15h. En attendant, vous pouvez, comme d'habitude, bien sûr, écouter ou réécouter votre émission sur Europe 1.fr.